Et je cède la parole maintenant avec Gaëlle Breton-Legoff, qui est professeure associée et que je remercie infiniment d'être venue à travers les océans, outre-Atlantique, de l'université de l'UQAM pour nous entretenir des tribunaux populaires de l'usage de la symbolique dans l'établissement d'une vérité.
Madame la Présidente, merci. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour traiter d'un sujet dont le titre semble assez énigmatique, mais qui, je dois dire, au moment où je l'ai rédigé, me semblait tout à fait évident. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui provient ou est le résultat de ma recherche de doctorat que j'ai menée concernant la contribution des organisations non gouvernementales à la justice internationale. Et dans le cadre de cette recherche, eh bien, j'ai été amenée à m'intéresser à la création des tribunaux un petit peu particuliers, qui sont les tribunaux créés par des organisations non gouvernementales ou par un petit groupe de personnes qui, au départ, ne sont pas constituées en associations créées à l'initiative privée, qui sont des associations de droit interne à but non lucratif, mais qui, par la suite, s'instituent en fondation ou en organisation non gouvernementale telle que la Ligue permanente des droits des peuples qui a son siège en Italie, par exemple. Alors, donc, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui part finalement de cette recherche sur l'action des organisations non gouvernementales et leur impact sur la création du droit international. Bien sûr, quand on regarde l'exercice des organisations non gouvernementales dans le cadre de la création de tribunaux dits populaires, puisque c'est ainsi que certains d'entre eux se nomment, tels que le Tribunal permanent des peuples, qui sont dits des tribunaux aussi populaires, on s'aperçoit qu'ils ont un impact, qu'ils peuvent avoir un impact sur la création normative à long terme. Mais je reviendrai éventuellement dessus sur les discussions. Le but et l'objectif de la présentation aujourd'hui n'est pas celui-là. Donc, ces tribunaux non gouvernementaux, qu'on pourrait appeler non étatiques, qu'on pourrait appeler populaires, alternatifs ou parallèles, sont des tribunaux qui, par essence, vous l'avez compris, ne sont pas créés par une loi, par un acte posé par l'État ou la communauté internationale, et dont la particularité, finalement, réside dans le fait qu'ils naissent de l'initiative privée et qu'ils adoptent par mimétisme les caractéristiques des tribunaux officiels. Et ici, quand je parle de tribunaux officiels, il s'agit des tribunaux créés par l'État et par la communauté internationale. Les exemples, ça peut être celui du tribunal Bertrand Russell, dont la première qui a été créée en 1966, mais aussi le tribunal permanent des peuples, ou encore, plus récemment, le tribunal des femmes de réconfort de Tokyo. Alors, comme je vous le disais, ces tribunaux sont créés à l'initiative d'un petit groupe de personnes, des universitaires, des philosophes, des écrivains, des activistes, ou d'une ou plusieurs organisations non gouvernementales. Ce qui unit les personnes à travers cette initiative, c'est l'idée qu'il est nécessaire de réagir ou d'agir face à une politique qui est considérée comme inacceptable. Exemple, l'intervention armée américaine au Vietnam ou encore en Irak, ou bien le silence du gouvernement japonais sur la question de l'esclavage sexuel durant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce mouvement de réaction et de contestation contre la politique de la dette, l'impérialisme américain ou encore la violation systématique des droits de l'homme et de l'environnement, eh bien, le choix, à un moment donné, est fait de mettre en place un tribunal populaire. Alors, dès lors, la question se pose de savoir pourquoi choisit-on la formule du tribunal populaire alors qu'il existe à la disposition de ces personnes et des ONG toute une pléthore de différents moyens d'action, comme par exemple mettre en place une conférence internationale, tenir des débats publics, publier dans la presse et publier des ouvrages d'analyse, ou pourquoi pas s'engager en politique. Alors pourquoi la question, pourquoi, pardon, opter pour le judiciaire alors qu'il s'agit là d'une formule qui est complètement dépourvue de force contraignante et qui, par-dessus le marché, est souvent critiquée pour sa partialité et la partialité de ses initiateurs et des participants. Je pense en fait qu'il y a plusieurs réponses à cette question et je souhaiterais vous les exposer au cours des minutes qui suivent. Et donc ma thèse est la suivante. Premièrement, je pense que le choix de la formule du judiciaire répond à une recherche de légitimité qui serait obtenue par le respect du processus judiciaire lui-même et de ses rituels. Et c'est pour ça que je parle de symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, profondément, intrinsèquement, la mise en place d'un tribunal populaire est un acte politique. Ma deuxième idée, c'est de considérer que le processus de l'acte de juger agit comme une matrice qui permet en fait de transformer une parole ou un fait contestataire en un construit qui, figé dans le temps judiciaire, qui est celui du prononcé du jugement, eh bien, va constituer une certaine vérité, en tout cas une vérité qui est différente de celle présentée par l'idéologie dominante. Et ce sont donc là les deux aspects que je souhaiterais aborder. Premièrement, la légitimation par le processus judiciaire et ses rituels. Et deuxièmement, l'acte de le juger comme révélation et construction de la vérité. Alors, pour ce qui est de la légitimation par le processus judiciaire et ses rituels, je pense qu'on ne peut pas éviter d'aborder trois points qui sont les suivants. Le premier, c'est celui de bien comprendre le contexte de la création des tribunaux populaires. Le rituel de la justice, deuxièmement, bien comprendre l'importance de la ritualisation de la justice, et enfin, démontrer que dans l'établissement des tribunaux populaires, il existe des éléments de juridicité qui répondent à ce rituel. Alors, en tout premier lieu, il convient de revenir sur le contexte qui motive la création des tribunaux populaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte politique. C'est une prise de position à l'encontre de politiques jugées rétrogrades ou illégales. C'est dénoncer, critiquer l'illégalité, par exemple, de la guerre en Irak et identifier des responsables. Et en ce sens, ici, c'est plutôt l'idée de redevabilité qui va être recherchée ou mise en avant dans ce processus que l'idée véritablement de responsabilité criminelle au sens où nous l'entendons dans les procès étatiques. Mais créer un tribunal populaire, c'est aussi résister. C'est résister en s'appropriant une fonction juridictionnelle qui traditionnellement est assumée par l'État. Alors pourquoi le fait-on ? Eh bien parce que l'État et les institutions internationales trahissent, et là je cite les paroles des fondateurs du tribunal permanent des peuples en 1999, qui trahissent l'aspiration humaine à la justice. Et alors il existerait un devoir de réagir, un devoir d'agir. Mais voilà, le problème c'est que ces tribunaux sont des simili-tribunaux, des tribunaux qui n'ont pas de force contraignante, pas d'existence juridique, et dont la légitimité, finalement, repose sur l'appui populaire dont ils vont pouvoir bénéficier, et également le processus judiciaire. Et c'est là qu'arrive l'analyse de l'importance du rituel de la justice. Si on revient à la thèse de Gérard Soulier, celui-ci prétend ou a pour opinion que la justice est un spectacle qui opère selon des règles bien établies et dans un lieu déterminé. Et je prétends qu'en s'appropriant les rôles des juges et des avocats, en édictant des règles de procédure et en adoptant un langage judiciaire, les fondateurs des tribunaux populaires ou non gouvernementaux et leurs participants quittent l'habit ordinaire pour endosser celui d'un personnage symbolique au comportement qui est réglé par un autre code que celui de la vie courante et qui vont utiliser un langage ritualisé qui comporte des formules consacrées caractéristique de l'acte judiciaire. Ainsi, le tribunal non gouvernemental, en siégeant dans un lieu précis, en plaçant les juges sur des estrades, en donnant la parole à la poursuite et à la défense, en programmant des auditions de témoins, reprend un certain nombre d'éléments du procès. Et il est notable, ou il est à noter, que certains tribunaux populaires vont prendre un soin particulier à se doter de statuts constitutifs, à adopter des règles de procédure qui sont intégrées dans ces statuts, et des règles de procédure notamment qui vont être très proches de celles des tribunaux ordinaires, et ils prendront également soin de respecter la règle du contradictoire. Il est donc possible de retrouver dans la composition des tribunaux, comme le fait de constituer un banc avec un nombre impair de juges, par exemple, la mise en place ou la nomination de procureurs, voire même dans certain nombre de tribunaux non gouvernementaux, la création d'un greffe qui en fait agit davantage certes comme un secrétariat, mais qui est symboliquement appelé greffe. Donc on peut retrouver des éléments de juridicité dans l'examen, dans la composition, mais aussi dans l'examen de la recevabilité, dans le respect de la règle contradictoire. Et certains tribunaux vont même jusqu'à nommer des représentants des défenseurs dans le cadre d'une procédure particulière que l'on retrouve dans les tribunaux pénaux internationaux, dans le cadre de l'amicus curiae, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé au TPY lorsqu'il a fallu nommer un défenseur pour M. Milosevic. Et il est par ailleurs à noter que ces tribunaux précisent le droit applicable. Donc, en appui à ce que je viens de vous dire, je vous ai projeté un tableau de quelques tribunaux qui présentent les différents éléments de juridicité. Alors, bien sûr, ces éléments de juridicité qui sont projetés sont inégaux en fonction du tribunal. Et il est possible de noter qu'il existe des différences entre les tribunaux populaires dits généraux et les tribunaux populaires dits pénaux. Et par ailleurs, ces tribunaux populaires vont présenter un certain nombre de défauts et de biais. Par exemple, rares sont les tribunaux populaires dont les membres ou pendant les juges ou les membres du jury sont des professionnels de la justice, par exemple. De la même façon, on pourrait tout aussi bien remettre en cause la pertinence de l'examen de recevabilité des plaintes et le réalisme de la règle du contradictoire, ainsi que la qualité du raisonnement juridique dans un certain nombre de cas. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de ces écueils, les initiateurs des tribunaux populaires continuent de faire appel à cette forme d'action. À tel point, d'ailleurs, que le nombre de tribunaux populaires internationaux comme nationaux augmente sans cesse. Et ceci n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard car, au-delà de la légitimation par le processus judiciaire, il existe une volonté claire de la part des initiateurs de ces tribunaux d'établir une certaine vérité, et ceci dans les formes de l'acte de juger. Ce qui m'amène à la deuxième partie de ma présentation. L'acte de juger comme révélateur, comme révélation et construction de la vérité. Dans les procès populaires, les officiants sont à la recherche de la vérité, qui est en fait une certaine vérité. Cette vérité est d'autant plus importante pour eux qu'elle est la justification même de leur existence et de leur action. Mais les tribunaux ne s'en tiennent pas là. De par leur mission, ils doivent aussi qualifier les faits, les juger, et cet exercice ne se fait pas de manière innocente. Il obéit à un objectif particulier qui est celui de la reconstruction d'un ordre nouveau. Donc les tribunaux vont avoir une fonction de révélation de la vérité. Comment ? En prenant un soin tout particulier à établir les faits de la manière la plus précise possible. Et cette recherche de rationalité et d'irréfutabilité est si grande que dans un certain nombre de cas, les dossiers qui sont présentés au tribunal, qui ne sont pas suffisamment documentés, y compris scientifiquement, sont rejetés. Dans un contexte de droit pénal, les tribunaux populaires vont, à l'image des tribunaux pénaux internationaux, donc documenter, établir et archiver l'indicible. Ainsi, le tribunal des fans de Tokyo consacre une large part de la documentation de l'histoire du Japon dans la région, ainsi qu'à la description du système des femmes de confort. Et il existe dans ce processus une volonté de garder la trace des événements, des crimes et de leur mécanique afin de les inscrire dans l'histoire. Mais au-delà de la révélation de la vérité, les tribunaux populaires construisent une vérité à travers l'acte de juger. Ces tribunaux, il est vrai, se livrent avec plus ou moins de sérieux à l'identification du droit applicable, la sélection des faits, leur qualification, ainsi qu'à l'interprétation de la norme. Mais certains l'ont fait de manière extrêmement sérieuse. Et ce faisant, ils procèdent à la reconstruction de la réalité sociale. Et pour bien comprendre ici mon argument, ou ce processus, je voudrais revenir à la thèse qui est défendue par, avancée pardon, par Philippe Allotte. Selon lui, les relations juridiques qui servent de base à l'action de juger sont à la fois une matrice qui est caractérisée par l'abstraction et la catégorisation. Deuxièmement, par une heuristique qui consiste en la simplification de la vérité, de la réalité, pardon, et dans un algorithme qui est en fait le processus de transformation du fait initial après le processus juridique, suite donc à l'interprétation. Or, je pense que les tribunaux populaires, je prétends que les tribunaux populaires, à travers l'acte de juger, actualisent la réalité sociale, voire même, dans un certain nombre de cas, la transforment en réhiérarchisant des valeurs qui sont portées par le droit ou en introduisant de nouvelles. Et ce processus de transformation offrirait donc la possibilité d'un nouvel avenir. Or, l'objectif affiché des tribunaux populaires, ce n'est pas seulement de documenter, de dénoncer et d'établir des responsabilités, c'est aussi de transformer la société. Le droit devient alors, aux yeux de certains, un outil de transformation sociale. Pour conclure, je voudrais vous rappeler, finalement, combien dans cet exercice, l'importance finalement de l'institution judiciaire ou de la forme de l'institution judiciaire et de ses règles dans la symbolique pour légitimer un acte politique. Deuxièmement, le jugement va ancrer dans la parole judiciaire par le recours aux normes, la qualification, l'identification des responsabilités, donc va ancrer une certaine vérité dans la parole judiciaire. Et ça va établir une autre vérité, différente de celle qui nous est traditionnellement exposée, qui par la suite va être publicisée auprès de l'opinion publique, mais aussi des organisations ou des institutions des Nations Unies, et éventuellement même donnera lieu, lorsque ce sera possible, à des actions judiciaires. Je vous remercie.